Merci pour ta vie. Seigneur, ce matin, on veut vraiment proclamer que tu es digne. Seigneur, on n'est pas en train juste de chanter ou de prononcer des mots qui sont sur un écran, mais on croit que tu es vivant. On croit que tu es mort, tu es ressuscité, et on est là pour te louer, pour t'adorer, pour élever ton nom, pour te célébrer. Et Seigneur, on est vraiment heureux d'être là devant toi et proclamer que tu es digne. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance, à toi le règne, au siècle des siècles, à jamais. Alléluia. Amen. Amen. Et on va poursuivre ce temps, vous pouvez reprendre place. On aura d'autres temps de chant, temps de louange. Comme j'ai dit au début, on va avoir différentes interventions et on va, au milieu de ce culte, au milieu de la louange, et on poursuivra par des chants, des temps de ministère, des temps de prière. Et on a vraiment envie de vivre la puissance de Pâques et pas juste se souvenir de quelque chose d'il y a 2000 ans, mais de le vivre ensemble, pleinement. Mais ici, à Neuchâtel, on veut déclarer que ce jour, c'est la célébration de la vie, de la résurrection de Jésus. Et on proclame ça, oui, qu'on puisse applaudir le Seigneur. Ici sur la terre, sur la planète entière, des gens célèbrent la résurrection parce que Jésus est mort, il est ressuscité et puis on le proclame haut et fort encore aujourd'hui, 2000 ans après que ce miracle de la vie soit passé, des gens se réunissent encore pour se réjouir qu'il soit sorti du tombeau. C'est magnifique, c'est super. Donc on aura trois différents messages, d'abord de Jonathan, ensuite de Michel, et ensuite de Diane, mais que vous puissiez vraiment, durant tout ce moment, vous laisser toucher par cette puissance de la croix, puissamment. Alléluia. Et Seigneur, on t'accueille, tu es déjà dans ce lieu parce que tu viens quand on te loue. La Bible dit que quand on élève ton nom, tu viens te manifester. Et Seigneur, tu es déjà ici, mon désir encore plus de ta présence. Et je te prie, Seigneur, que tu viennes toucher nos cœurs, que tu viennes saturer cette salle de ta présence, de ton onction, de ta puissance, parce qu'on ne veut pas juste commémorer ou se souvenir de quelque chose de passé, mais on veut vivre cette croix, on veut vivre cette puissance, on veut vivre cette présence aujourd'hui. Et nous accueillons ta vie. Nous accueillons ta vie, cette puissance de résurrection qui est exactement la même il y a 2000 ans. On veut l'accueillir ici dans ces lieux et dans nos vies. Amen. Amen.
Amen. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je vais vous partager ce que j'ai sur le cœur. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais les premiers contacts qu'on a avec une personne, les premières questions qu'on va poser, c'est vraiment déterminant un peu sur la relation, ça va définir un peu la relation qu'on a avec ces personnes. Par exemple, avec une personne proche, on va lui demander « Ah, mais comment s'est passé ton rendez-vous ? Comment se passe ton stage ? Ah, est-ce que tu as eu des nouvelles de tel et tel ?» et etc. Avec une personne peut-être moins proche, on va plutôt lui demander « Ah, rappelle-moi, tu fais déjà quoi dans ta vie ?» T'habites où ? C'est quoi tes hobbies ? Les questions, elles vont vraiment changer. Et quand j'étais au Numadro, on était en pédagogie, donc on n'était que quatre garçons. On était très proches, très soudés durant 3 ans. Et là, j'ai décidé de reprendre contact avec mes amis. Et j'ai vraiment vu que mes questions ont changé selon les amis. Le premier, je lui ai demandé, alors, comment ça se passe ton apprentissage au Locle ? Ça va les trajets toujours ? T'as toujours du plaisir en fait. Puis du coup, les questions étaient un peu plus comme ça. Pour le deuxième, c'était « Ah, est-ce que finalement t'as réussi à trouver un apprentissage ? Est-ce qu'il te plaît ?» Puis après, au troisième, je lui ai dit « Ah, tu sais quoi, devine quoi, je vais faire un match à Couvet, ce serait génial, on va pouvoir jouer contre, dis-moi si tu es là aussi. » Et puis il m'a répondu en me disant « Ah oui, ben, c'est génial que tu joues à Couvet, mais moi ça fait 4 ans que je joue à Fleurier maintenant. » Et j'avais beau être très proche d'eux, ben là, le contact s'est perdu et puis on voit vraiment la différence de relation. Et j'avais envie de te poser cette question aujourd'hui. Si tu devais poser une question, si tu devais parler à Jésus, quelle serait ta relation ? Quelles seraient tes questions ? Est-ce que ce seraient des questions profondes ou bien des questions un peu plus superficielles, un peu plus génériques, un peu plus on fait connaissance ? Ou est-ce que ce serait de partager ton cœur, vraiment ce que tu vis maintenant ? Quelles seraient tes questions ? Ça me fait penser un peu comme les présentateurs télé. Par exemple, Philippe Réva, Jennifer Covo, ou encore Claire Burgui à la RTS. Pour ceux qui regardent le journal télévisé, on les voit régulièrement, mais en fait, on ne les connaît pas vraiment. On ne sait pas d'où ils viennent, sûrement qu'ils habitent dans la région de leur travail, mais avant ça, Moi, en tout cas, je ne les connais pas. Je ne connais pas le hobby. Je ne sais pas ce qu'ils font dans la vie, mis à part présentateur. Et en fait, avec Jésus, c'est un peu pareil. Peut-être que tu en as entendu parler depuis toujours. Peut-être que ça fait longtemps que tu en entends parler. Tu sais un peu ce qu'il a fait. Peut-être que tu sais pertinemment ce qu'il a fait. Mais est-ce que tu le connais vraiment? Et c'est cette question que je me suis posée. Moi, je suis né dans une famille chrétienne, j'ai une éducation chrétienne. Cet été, ça fera 9 ans que je me suis fait baptiser. Je baigne vraiment dans la foi depuis le début. Et puis, il y a 2 ans, je me suis posé la question, mais est-ce que Jésus, je le connais vraiment, en fait? Ou bien c'est quelqu'un qu'on explique, qu'il y a des histoires vraiment parlantes, vraiment poignantes pour ma vie. Mais est-ce que lui, personnellement, est-ce que je le connais vraiment? Est-ce que je lui partage vraiment mon cœur? Et c'est la même question que j'ai envie de te poser aujourd'hui. Est-ce que tu connais vraiment Jésus? Est-ce que tu connais vraiment, réellement Jésus? Et j'ai envie de te dire que Jésus, lui, il te connaît. Il te connaît parfaitement. On voit notamment dans la Bible, dans Jean 4, où Jésus, il se trouve à midi, assis vers un puits, et il y a une dame, une femme samaritaine qui vient puiser de l'eau, alors que normalement ça ne se fait pas dans ces heures-là. Et ensemble, ils discutent, et Jésus, il lui parle de l'eau vive, une eau qui, quand on la boit, nous donne plus jamais soif. Et cette dame, elle lui dit, « Ah ben, est-ce que tu peux me donner cette eau? J'ai plus envie de venir puiser chaque jour à midi. Est-ce que tu peux me donner cette eau ?» Et Jésus lui dit, « Oui, va seulement chercher ton mari, va dire à ton mari. » Et elle dit, « Mais je n'ai pas de mari. » Et Jésus lui dit, tu as raison, tu as eu 5 maris et l'homme avec qui tu habites maintenant n'est pas ton mari. Et après, ils discutent, c'est vraiment parlant, je vous invite à lire cette histoire, mais on voit vraiment dans cette histoire que Jésus, en fait, il connaissait parfaitement cette dame, il connaissait parfaitement cette femme samaritaine, alors qu'elle vient à midi, et c'est quelque chose qui ne se fait pas, il sait même sa vie, combien elle a eu de maris, avec qui elle habite. Et dans la même idée, Jésus, il te connaît aussi parfaitement. Il connaît chaque chose de ta vie. Il connaît tes défis, il connaît tes problèmes, il connaît tes mots, il connaît tes maux, il connaît tes blessures, il connaît tes conflits. Jésus, il te connaît. Et même plus qu'il te connaît, Jésus, j'aimerais, avant d'aller plus loin et dire que plus qu'il te connaît, j'aimerais revenir aux amis. Jésus, lui, ça peut être aussi un ami, ça peut vraiment être, vous savez, ce genre d'amis qui sont là et qu'on sait que peu importe dans quelle situation on va se trouver, la personne sera là. Peu importe dans la galère où on sera, peu importe dans quelle situation, cette personne sera présente, sera là pour nous soutenir. Cette personne qui pourrait remuer ciel et terre pour nous, cette personne qui pourrait donner sa vie pour la nôtre, cet ami-là. Et j'ai envie de te dire que si tu as envie, Jésus, il peut être cet ami pour toi. Cet ami qui remue ciel et terre, cet ami qui donne sa vie pour toi, Jésus, il peut être cet ami. Et dans la Bible, c'est noté dans le psaume 23, « Même quand je marche dans la vallée sombre de la mort, je ne redoute aucun mal car tu es avec moi. » Même dans une situation problématique, là on ne parle même pas d'une petite situation problématique, un petit conflit, un petit quiproquo, on parle de la vallée sombre de la mort, et c'est dit que même dans cette vallée sombre de la mort, qui est sûrement une des pires choses qu'on puisse vivre, Dieu, Jésus, il est là avec moi, et il n'est pas juste là, à côté. Jésus, c'est noté, je ne redoute aucun mal, car tu es avec moi, et ensuite, ta conduite et ton appui, voilà ce qui me réconforte. Voilà ce qui me réconforte. Dieu, il n'est pas juste là, à côté. Il est là, il t'appuie, il te réconforte. Il est là avec toi, il te soutient. Et même plus que ça, même plus loin, Dieu, il dresse une table dans cette vallée sombre de la mort. Il dresse une table. C'est une table juste pour toi et lui, pour prendre du temps. Une table où tu peux dire juste stop, stop. Et je pense vraiment que Jésus, il est là, il est assis, et il t'invite, et il dit, hé, stop, peu importe dans quelle situation tu te trouves, je suis là. Et la table qui se trouve ici, ce n'est pas juste une table avec 2 verres d'eau et 2-3 cacahuètes, c'est vraiment une table avec un festin. C'est vraiment une table où il y a des fruits, où il y a des gourmandises, où il y a des gâteaux, une table où lui, Jésus, a pris du temps pour toi. Il a pris du temps pour cuisiner, pour partager ce moment avec toi. Dans cette période qui est la pire, dans la vallée sombre de la mort, il a dressé une table pour prendre ce temps avec toi. Et je vous parlais avant d'un ami qui peut donner sa vie pour toi. Eh bien lui, c'est cet ami et il a donné justement sa vie pour toi. C'est d'ailleurs ce qu'on célèbre à Pâques. Dans sa vie, Jésus, il a vécu une vie vraiment parfaite. Et à 33 ans, il a été mis à mort injustement. Et pourquoi est-ce qu'il a été mis à mort injustement? Parce qu'en fait, il a été d'accord de mourir à ta place. Il a été d'accord de mourir à ta place. Il n'a pas juste dit « Non, 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 tu es le pape, prenez-moi. » Il n'a pas seulement donné, pris ta place, mais il a pris en plus sur lui tous tes péchés, toutes tes fautes. Il a pris pour lui pour que quand il aille sur la croix, justement, qu'il n'y ait pas juste ta vie qui soit sauvée, ta vie éternelle, mais que tes péchés soient pardonnés, que tes fautes soient pardonnées. Il a tout pris, que peu importe dans quelle situation tu te trouves, que tu sois pardonné. Et dans Matthieu 27, il est écrit, lors des derniers instants de Jésus, que Jésus poussa de nouveau un grand cri et il rendit l'esprit. Puis il y a une puissance qui est tombée sur la terre. Le voile du temple s'est déchiré en deux, de haut jusqu'en bas. La terre a tremblé, les rochers se fendaient, les tombeaux s'ouvrirent et les corps de plusieurs saints ressuscitèrent. Il y a une puissance à ce moment-là. Au moment où il s'est sacrifié pour toi, il y a une puissance qui est descendue sur terre. Et ce matin, j'aimerais te dire qu'il l'a fait pour toi précisément. Et on va voir aussi après, mais Dieu, c'est le même hier, aujourd'hui et demain. Il l'a fait peut-être hier, il l'a fait peut-être il y a 2000 ans, mais aujourd'hui, il a encore cette puissance du sacrifice, il l'a encore. Et c'est comme si je vous voyais assis à cette table et vous êtes là et vous parlez. C'est une situation dans la vallée sombre, une situation sombre. Et Dieu, il vient par cette puissance et il y a la lumière qui descend. Il y a la lumière qui descend comme un claque qui vient et qui descend dans ta vie. Comme un claque dans tes problèmes, comme un claque dans tes blessures, un claque dans la maladie, un claque dans le doute, un claque dans le conflit, un claque dans le désespoir, un claque dans ton couple, un claque dans ton divorce, un claque dans ta dépression, un claque dans ta situation, peu importe laquelle c'est. Comme si Dieu, il parle et d'un coup, claque, il y a la puissance. Les ténèbres qui partent, la lumière qui vient. Et le plus beau, c'est pas que Jésus est seulement mort pour toi et a pris tes péchés avec lui qui a été parfait et qui n'en avait justement pas. Mais 3 jours après, il est ressuscité. Il a vaincu toutes choses. Toutes les choses que j'ai citées, il les a vaincues. Il les a prises pour toi. La mort, il l'a vaincue. Il l'a prise pour toi, pour que tu aies la vie éternelle. Et c'est d'ailleurs ce qui est noté dans 1 Pierre 2:24 où il est dit « Lui qui a même porté nos péchés dans son corps à la croix afin que, libérés du péché, nous vivions pour la justice, c'est par ses blessures que vous avez été guéris. » Et on voit vraiment que Dieu, il a pris Jésus, il a pris chaque chose sur lui pour que tu sois libre, pour que tu sois léger, que tu aies la vie éternelle. Et maintenant, on va prendre un chant et ensuite un temps de Sainte-Cène. Et le temps de Sainte-Cène, c'est le dernier repas que Jésus a pris avec ses disciples et c'est notamment l'occasion de se rappeler le sacrifice qu'il a fait pour nous. Un moment où on peut remercier Dieu pour tout ce qu'il a fait pour toi. Pour tout ce qu'il a fait pour toi, tout ce qu'il a fait pour nous. C'est aussi le moment dans ta situation de dire stop et d'accepter cette fameuse invitation à cette table. De prendre du temps avec lui, de prier, donc autrement dit, de parler avec lui, de prendre ce temps, toi et lui. Ce n'est pas un moment où on va se plaindre, où on va brasser les choses passées, les blessures qu'on a, mais c'est plutôt ce moment qu'on va prendre de Sainte-Cène ensuite après ce chant. C'est plutôt un moment où on va le remercier pour son sacrifice, on va prendre de ses nouvelles, on va parler avec lui, on va vraiment le remercier pour qui il est. Et j'aimerais terminer en priant, donc... Merci Seigneur pour ce que tu as fait pour nous. Merci pour tout ce que tu as donné. Merci parce que tu t'es sacrifié pour nous et parce que tu es là, peu importe dans quelle situation on se trouve, peu importe dans quelle vallée on se retrouve, Seigneur, tu es là et tu prends du temps pour nous. Et Seigneur, qu'on puisse prendre ce temps avec toi, après ce chant justement, pour te remercier. Merci Seigneur, parce que tu t'es sacrifié pour nous, tu as pris tous nos péchés, tu as pris chaque chose, chaque difficulté, tu les as prises sur toi Seigneur pour nous. Merci Seigneur. Amen.
Alléluia. Et alors qu'on reste dans cette présence de Dieu, on s'encourage à ce qu'on puisse répondre à ce message, que ce soit pour la première fois dans ta vie, mais aussi si tu le connais, Dieu désire vivre toujours plus cette intimité, cette amitié, cette proximité, où tu ne connais pas juste ce qu'il a écrit dans son livre, Jésus, pas seulement ce qu'il a dit à d'autres dans des messages, mais ce qu'il te dit à toi. Et aujourd'hui, ce qu'il veut te dire, c'est autour d'une table, il veut te donner sa vie, il t'a donné son sang, son corps, et qu'on puisse s'approcher de cette croix, de cette table, et que tu puisses tout lui donner. Et en échange, il te donne tout. Il prend tes péchés, il prend tous tes manquements, il prend tout ce qui t'oppresse. Et on va poursuivre encore de plein de choses tout à l'heure, encore dans ce message, dans ce culte, mais que tu puisses t'approcher de cette table et recevoir sa vie. Et c'est sa vie qui est en abondance, en abondance. Reçois vraiment son abondance de vie, ce salut, cette vie éternelle. Alléluia. On va poursuivre ce moment de vivre la croix, de vivre la Pâque ensemble. Et c'est Michel qui va poursuivre ce moment et on est très heureux de te donner la parole, Michel.
Bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Michel Branchen. Je suis divorcée. Je n'ai pas d'enfant, mais j'ai un beau-fils qui me procure beaucoup de joie. On m'a demandé de parler sur la guérison ce matin. Parce que je fais partie depuis 5 ans des équipiers de prière de l'AIMG. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'Association internationale des ministères de guérison. Et voilà, je suis un peu tremblante devant vous, parce que je suis plutôt dans le « ah, hein, mais parler comme ça devant des gens, c'est... j'y arrive, mais voilà. Alors, je voulais déjà commencer par une déclaration. Et puis, c'est Hébreux 13, 8. En même temps, Jonathan l'a déjà dit tout à l'heure. c'est Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Et ça me fait penser que je me suis fait baptiser en 1988 par François Guya. Et puis maintenant, il y a le fils et Jonathan. Le père, le fils et Jonathan. Il y a un deuxième verset sur lequel je vais m'appuyer, c'est que en Jean 3, 8, le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Et ça, c'est une super bonne nouvelle. Depuis que j'ai connu le Seigneur, c'est vrai que j'ai toujours eu à cœur d'obéir à ses commandements. Je n'ai pas toujours tout réussi. Mais j'ai toujours essayé en tout cas d'aimer Dieu, mon prochain et moi-même. Juste avant d'être enlevé au ciel, Jésus a dit dans Marc 16, « Allez dans le monde entier, annoncez la bonne nouvelle à tous les hommes. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les signes miraculeux qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons, ils parleront des langues nouvelles, ils saisiront des serpents venimeux, ou s'il leur arrive de boire un poison mortel, cela ne leur causera aucun mal. Ils imposeront les mains à des malades et ceux-ci seront guéris. » Je travaille depuis bientôt 30 ans dans les soins à domicile, comme aide familiale. Et l'autre jour, j'étais avec un monsieur qui était angoissé par rapport à une maladie qu'il a. Et comme j'avais vu qu'il y avait une croix dans son appartement, je lui ai posé la question « Est-ce que vous êtes croyant ?» Il m'a dit « Oui, plus ou moins. Ma maman était croyante. » Et puis j'ai dit « Qu'est-ce que vous savez de Jésus ?» puis il m'a dit, bah, Jésus, c'est quelqu'un qui parlait avec les gens. Et puis maintenant, les gens ne se parlent plus. Et puis j'ai dit, ouais, c'est vrai qu'il parlait de l'amour du Père. Mais qu'est-ce qu'il faisait d'autre? Puis il ne savait pas quoi me dire. Et j'ai dit, bah, monsieur, il guérissait les malades et il nous a demandé de continuer de le faire. Et moi, je vous propose, si vous voulez, je peux prier avec vous. Puis il m'a dit, oh, ça me ferait plaisir. Et comme c'était un problème de poignet, je lui ai demandé si je pouvais poser ma main sur son poignet. Il m'a dit oui. Puis il a posé sa main aussi sur la mienne. Il m'a dit, je vais prier aussi. Et puis on a prié, il était très reconnaissant. Et je le vois lundi, donc je verrai ce qui s'est passé. D'ailleurs, j'ai envie de faire un petit sondage avec vous. J'aimerais que vous leviez la main, les gens qui ont déjà vécu une guérison donc divine. Hein, enfin, toutes les guérisons sont des guérisons divines, si on veut, mais suite à une prière ou à quelque chose. Regardez-vous à peu près. On peut presque dire la moitié. Ouais. Ok, super. Et qui connaît quelqu'un qui a été guéri surnaturellement par Jésus? Presque les trois quarts, ou bien, ouais. Waouh. Et qui a guéri quelqu'un au nom de Jésus par le Saint-Esprit en priant? Amen. Amen. Ça nous prouve que Jésus est vivant et qu'il est fidèle et qu'il accomplit toujours ses miracles. Au mois d'août l'année passée, il y avait eu un témoignage, un culte témoignage ici de Jean justement qui a été guéri. Et puis je voudrais rebondir sur le témoignage que Erika avait fait, si j'ose. Mais bon, il est sur le net, alors je peux... elle s'était réveillée un matin avec quelque chose d'étrange et d'hideux au coude, et une grosseur. Et puis, dans la semaine, elle avait vu à la télévision une émission sur les guérisseurs et les résultats qu'ils avaient. Et puis, ça l'a comme remplie d'une sainte colère, se dire, mais Dieu aussi, il le fait. Et ils se sont mis à prier avec François. Et je crois deux jours ou trois jours après, tout à coup, la chose est tombée. C'est ça, Erika. Alors, j'ai beaucoup aimé ce témoignage. Parce que pour moi, c'est à l'Église de guérir. C'est à l'Église que Jésus a dit de guérir, c'est pas à l'ennemi. Et pourtant, l'Église, elle n'est pas vraiment reconnue pour les guérisons. Les gens, ils courent pas ici pour venir se faire guérir. On sait où ils vont, et puis ça marche. Et parce que Satan, il va toujours prendre la place. C'est à nous de reprendre cette place. Reprenons notre mandat, reprenons notre héritage. Dernièrement, j'ai compris quelque chose par rapport au danger d'être guéri par des gens qui font le secret ou qui pratiquent le New Age, les énergies, Reiki, ou toute autre forme que le Saint-Esprit, et non au nom de Jésus. J'ajoute que beaucoup ne savent pas quel maître ils servent. Ils croient qu'ils font vraiment du bien. Pas tous sont au courant des puissances avec lesquelles ils fonctionnent. Et dans Matthieu 8, 16, Jésus, il a dit, enfin, c'est écrit, « Le soir venu, on amena à Jésus beaucoup de gens et il guérit tous les malades. » Ainsi s'accomplissait cette parole du prophète Ésaïe. Il s'est chargé de nos infirmités et il a porté nos maladies. À la croix. Donc pas seulement nos péchés, mais aussi nos infirmités et nos maladies à la croix. Il s'est chargé. Et puis je me suis dit, mais si Jésus a pris nos maladies, en fait, il y a un transfert. Nos maladies ne partent pas comme ça dans la nature. Elles vont sur Jésus. Waouh. Vous êtes d'accord? Il veut guérir et il est venu détruire les œuvres du diable. Donc, quand un guérisseur guérit quelqu'un, la maladie, elle va où ? Je me suis posé la question. Elle ne va pas sur Jésus. Ils n'ont pas prié au nom de Jésus. Donc la maladie, elle va où ? Est-ce qu'elle va sur le guérisseur ? Ça se peut. Des fois, ils disent qu'ils ne sont pas bien après. Est-ce qu'elle va sur un membre de la famille ? Est-ce qu'elle va se déplacer dans le corps de la personne ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ça ne va pas à la croix. Et si jamais quelqu'un aimerait qu'on prie après, parce qu'il a été guéri par un guérisseur ou quelque chose, et qu'il veut briser ces liens qu'il y a peut-être avec ça, on va le faire après, ceux qui veulent. Ils peuvent s'en repentir, même s'ils l'ont fait en toute bonne cause, que c'est même des fois les parents qui amènent les enfants. Mais c'est un affront pour Jésus quand même, et on peut demander pardon. Et il nous pardonne. Ça, c'est la bonne nouvelle. Voilà. Alors, Jésus, notre point, il nous demande d'avoir la foi d'un enfant. D'y croire, de chercher, d'aspirer au don spirituel. Il veut guérir, il veut détruire les œuvres du diable. Mais pas toujours de la même façon. Soyons donc à l'écoute du Saint-Esprit et poursuivons celui qui guérit et non la guérison uniquement. Ni la méthode, ni la formule, ni une personne. Même Jésus l'a dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire par lui-même. Wow. Mais seulement ce qu'il voit faire au Père. Donc il était connecté à lui par le Saint-Esprit. Et c'est ce que nous sommes appelés à faire. Sinon, nous les hommes, on ferait des doctrines. Par exemple, on pourrait mettre de la salive, de la boue sur tous les yeux des aveugles. Dire, va, t'es guéri. Ou par exemple, on pourrait jeter les gens dans les piscines, puis qu'ils soient guéris. Ou bien passer les gens au travers des toits. Bon, les hélicoptères ou HNE, ils le font. Ou bien on pourrait prier uniquement quand il y a du soleil, pour que ça soit notre ombre qui guérisse les malades. Mais ça, Jésus l'a utilisé tellement de choses différentes. Et ça nous montre bien qu'on ne doit pas chercher une doctrine, mais vraiment, qu'est-ce que le Saint-Esprit va nous dire pour une personne pour laquelle on prie, ou qu'est-ce que la personne va recevoir. Parce qu'on ne peut pas dire que la guérison, elle repose seulement sur la foi de celui qui prie. Car à Nazareth, Jésus n'a pu faire que quelques guérisons, parce qu'il y avait de l'incrédulité. Donc ça nous montre qu'il n'y a pas que celui qui prie. Puis il n'y a pas non plus que celui qui est malade. Parce que comment est-ce qu'un mort pourrait ressusciter ? Et par sa propre foi. Ça, c'est celui qui prie, là. Mais parfois, Jésus a dit oui. À la femme, par exemple, guérie de la perte de sang, ta foi t'a guéri. Donc des fois, c'est une question de foi aussi. On ne peut pas toujours dire non plus que la maladie, elle est démoniaque. Pourtant, il y en a. La femme courbée possédait un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. J'ai toutes les références, hein, après, si jamais vous les voulez. Ou bien, on ne peut pas dire que tu es malade parce que tu as péché. Bien que cela soit parfois vrai. À la piscine de Bethesda, Jésus a dit à l'homme, après l'avoir guéri, « Va, ne pêche plus, afin qu'il ne t'arrive pas quelque chose de pire. » Et là, j'ai un témoignage que j'aimerais donner, qu'on a vécu dans un sozo. C'est une personne qui a été amenée à renoncer à des mensonges que quelqu'un lui avait dit depuis son enfance. Non seulement de les renoncer, mais aussi de les pardonner. Et elle a été conduite dans une prière où elle a pardonner, mais les mots, vraiment, hein, pas je dis, oh, je pardonne, mais voilà, je pardonne qu'on m'a dit ça, je pardonne ce qui m'a dit ça, ça, et qu'est-ce qu'il y a eu comme conséquence dans ma vie, tac, tac, tac. Et au moment où elle a fini sa prière, elle a crié, puis elle a fait, ah, Nous, on se regardait, on se disait, qu'est-ce qui se passe ? J'ai plus mes acouphènes. Donc, il y a eu quelque chose qui n'est pas complètement parti. J'ai regardé avec la personne, il reste encore, mais c'est vraiment minime, mais c'est que de temps en temps. Et puis, elle est en chemin. Mais pour dire que le pardon peut apporter la guérison. Donc, ne gardons rien sur nos cœurs qu'on n'ait pas pardonné. Et soyons précis dans nos paroles. Ensuite, y a Job, c'est tout le contraire. Lui, il n'avait pas péché du tout. Enfin, sûrement un peu quand même, mais bon. Et Dieu a permis qu'il soit rendu malade, dépouillé par le diable, un certain temps. Puis il le guérit et le rétablit. Je pense aussi à des grands hommes de Dieu comme Reinhard Bonnke, qui voyait des grands miracles dans certaines parties du monde et moins dans d'autres. Donc il y a encore des choses qui sont un peu étranges. Ou Jean-Claude Chablot, pour les plus anciens qui l'ont connu, il guérissait les malades, mais lui, il était malade. Jacques, aux croyants, il dit, l'un de vous est-il malade ? Qu'il appelle les responsables de l'Église qui prieront pour lui, après lui avoir fait une onction d'huile au nom du Seigneur. La prière faite avec foi obtiendra la guérison du malade et le Seigneur le relèvera. S'il a commis quelques péchés, il lui sera pardonné. Confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Quand un juste prie, sa prière a d'une grande efficacité. Il y a encore beaucoup pour moi de questions sans réponse. Il est Dieu. Mais il ne nous laissera jamais tomber. Il est proche de celui qui souffre. Il nous accompagne. Et certains ne seront complètement guéris peut-être qu'au ciel. Pour terminer, j'aimerais dire qu'une église ou une personne qui prie en toute humilité et avec foi et avec compassion et qui prend soin de ceux qui souffrent de quelque forme que ce soit, accomplit ce que Dieu lui demande. Et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui, maintenant, mais pas seulement. Dans Hébreux 10, 36, car il vous faut de la persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qu'il a promis. Et il nous a promis la vie éternelle et toutes les promesses qui sont dans la Bible, elles sont pour nous. Mais on doit persévérer, on a aussi une part à faire. Voilà, on va prendre un chant.
Alléluia. Merci beaucoup, Michel. Je propose qu'on se lève et on va prendre ce chant et proclamer que Dieu est celui qui fait des miracles encore aujourd'hui. Et ça, ce message, ça augmente notre foi. Et on désire vraiment pouvoir proclamer que Dieu est un Dieu de miracles. S'il est un Dieu de miracles, c'est parce qu'il a pris à la croix tant nos péchés, mais on le voit aussi dans Ésaïe 53 qu'il a aussi pris nos maladies. Et comme elle a dit, les guérisseurs, la maladie, elle se déplace. Les gens sont peut-être tout à coup malades psychiquement, plus physiquement, ou c'est leur famille. Nous, ce qui est extraordinaire, c'est que c'est Jésus lui-même qui a pris les maladies et il en est mort. Mais il est ressuscité, c'est cette puissance de vie qui peut libérer, qui peut nous toucher aujourd'hui par sa guérison. Et on a envie vraiment de proclamer qu'aujourd'hui encore, on l'a vu dans les sondages que Michel a fait, Dieu est un Dieu qui guérit. Et on va proclamer que Dieu est un Dieu qui guérit par ce chant, que ça puisse être des paroles de foi. Et à la suite de ce chant, on va inviter ceux qui sont malades de venir devant et on va prier. Alléluia. On voit dans la Bible qu'il y a des gens qui étaient guéris instantanément. Et il y en a d'autres qui étaient guéris alors qu'ils étaient en chemin. Tu puisses garder la foi, même si ce n'était pas instantané, ce matin, que quelque chose a commencé. Et garde la foi, parce que ça n'a pas marché. Continue d'être connecté à ce Dieu qui guérit. Et crois que la guérison, elle peut être des fois instantanée, c'est un miracle, ou des fois c'est une guérison, parce qu'elle est progressive. Et ça peut être, la guérison peut venir progressivement. Jésus, il a prié plusieurs fois aussi pour un aveugle, jusqu'à qu'il recouvre complètement la vue. Et Dieu peut le faire progressivement, ou tout à coup, comme pour certains, c'est demain matin que tu verras que la douleur est partie. Mais qu'on puisse garder la foi et continuer d'aller de l'avant. Alléluia. et on va poursuivre de ce culte où on veut vivre vraiment cette puissance de la croix, cette puissance de Pâques. Jésus qui a pris à la croix nos péchés, qui a pris nos maladies, qui a pris aussi nos malédictions. Et je vais donner la parole à Diane qui est déjà là. Et voilà.
Alléluia. Merci. Quel privilège de pouvoir revenir à la croix ce matin, au sacrifice de Jésus, justement en ce jour de Pâques. De pouvoir se focaliser sur les dimensions spirituelles que ça libère vraiment dans nos vies. Comme on l'a vu, Jésus a porté nos péchés pour nous donner accès au pardon et effacer ce qui nous condamnait. Jésus a porté toutes, j'aime bien souligner, toutes nos maladies pour nous donner accès à la guérison. Et la troisième dimension que j'aimerais justement aborder, c'est le fait que Jésus a pris sur lui tous nos tourments, nos malédictions, les liens démoniaques qui nous rendent captifs pour nous amener dans la délivrance et la liberté. À la croix, la puissance de la mort s'est acharnée sur Jésus. Mais l'histoire, elle n'a pas fini là. La puissance de la vie s'est manifestée et Jésus est ressuscité. Et il est vivant. Yes! Amen! On le sait tous, mais ça fait tellement du bien de redire ces vérités. Il a eu la victoire sur la puissance de la mort. La mort, c'est l'ennemi en fait ultime qui a été vaincu lorsque Jésus est ressuscité. Et on peut lire dans Colossiens 2, je ne sais pas si c'est là que je dois viser. Voilà. Dieu a effacé le document de nos dettes qui nous accusait et qui était contre nous à cause des règles établies, à cause du péché. Il l'a détruit en le clouant sur la croix, donc Jésus. Dieu a enlevé leur puissance aux esprits qui avaient autorité et pouvoir. Il a présenté ces esprits devant tout le monde et il les a traînés comme des prisonniers dans le défilé victorieux de son Fils. Dieu, à la croix, a enlevé leur puissance, j'aimerais bien qu'on entende ça, à tout esprit et autorité et pouvoir. Amen. Par sa résurrection, Jésus a remporté la victoire sur la mort, sur tout mauvais esprit qui appartiennent au royaume des ténèbres. Et on lit encore dans Hébreux 2, ces enfants-là, attendez, je dois diriger là-bas, merci, ça va venir. Ces enfants-là ont quelque chose en commun. Ce sont des êtres humains. Donc, c'est nous. L'esprit du mal avait le pouvoir de les faire mourir. À cause de cela, Jésus, lui aussi, est devenu un être humain pour enlever, amen, sa force à l'esprit du mal en mourant lui-même. La bonne nouvelle, c'est que Jésus est venu sur terre pour nous amener une vie nouvelle. Il a repris l'autorité que Jésus avait volée dans le jardin d'Éden, il lui a retiré tous ses droits de venir toucher à nouveau à nos vies. Jésus, lorsqu'il est sorti du tombeau, il est revenu vers ses disciples et il a proclamé cette parole « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre ». C'est clair, c'est Jésus qui a le tout pouvoir, qui a eu la victoire. Il nous a délivrés, Dieu nous a délivrés du pouvoir des ténèbres. Attendez, ça ne fonctionne pas très bien. Ouais bon, c'est pas grave. Il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres, nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Donc il nous extirpe de ce lieu où l'ennemi a des droits et il nous amène dans ce royaume, dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption et la rémission des péchés. Et c'est un truc de fou, ça. C'est génial. Et c'est sur cette victoire, justement, qu'on peut gagner nos combats. Quand j'ai donné ma vie à Jésus, je me suis sentie tellement différente et libre. légère un peu, comme si j'étais un papillon. Et dans mes premières années qui ont suivi ma conversion, Dieu est venu guérir mon cœur de blessures, des souffrances de mon passé, mais il est aussi venu me délivrer de la puissance qui me rendait captive et m'oppressait. Et voilà, ça fait 30 ans maintenant, j'ai calculé, que le Saint-Esprit m'a convaincue que Jésus n'était pas juste une histoire d'un livre, mais qu'il agissait encore sur cette terre. J'ai pris conscience ce soir-là que grâce à Jésus, j'ai la possibilité de vivre une relation vivante avec le Père Céleste. Et la révélation qui m'a le plus bouleversée cette soirée-là, c'est que j'ai saisi que la mort de Jésus a mis fin à mon héritage familial malheureux. Je m'explique. Dans certaines familles, il y a des maladies qui se transmettent de génération en génération. Des fois, on peut dire « Oh, mais cette famille, elle est un peu maudite. » Il y a des accidents toujours au niveau d'accidents de voiture, où il y a des suicides de génération en génération. Ou « Alors, mais cette famille, mais alors, qu'est-ce qui se passe dans cette famille ? Ils sont toujours pauvres. Il n'y a jamais de bénédiction financière. Il y a comme quelque chose qui se répète. » Dans certaines familles, il y a aussi des secrets par rapport à des abus qui se passent de génération en génération. C'est comme si le mal, il avait accès à chaque génération pour blesser et détruire. Mais ça ne doit pas être une fatalité. Dieu désire couper cette chaîne de malheur qui lie les générations de nos familles, peut-être. On a reçu tous un héritage familial positif dans nos aspects physiques, par exemple les yeux bleus, les cheveux bruns, ou on est grand, on est fin, on est plutôt potelé, enfin bref. L'héritage touche aussi notre âme, notre caractère, notre sensibilité, mais il touche aussi notre vie spirituelle. Il y a justement dans certaines familles, selon ce que nos pères, je dis nos pères, c'est pour dire les arrière-grands-parents, ou arrière-arrière-arrière-grands-parents, ou simplement nos parents, ont décidé de vivre, les choix qu'ils ont pris donnent accès finalement à la bénédiction de Dieu, ou l'accès à l'ennemi, qui peut transmettre d'une manière légale des malheurs de génération en génération. Mes parents ont divorcé, et ils sont tombés dans l'alcoolisme. Et quand j'ai compris que leur malheur pouvait en fait m'atteindre aussi, comme un héritage malsain, j'ai dit oui à Jésus. Je voulais finir avec ça. Par le sacrifice de Jésus, le diable ne peut plus légalement exercer son influence dans ma vie et dans les générations qui vont suivre, sur mes enfants et mes petits-enfants. Amen. Le péché de mes parents, de mes arrière-grands-parents et bien au-delà ne peuvent plus m'atteindre. J'hérite maintenant de mon Père qui est dans le ciel. Et c'est quoi cette nouvelle héritage ? C'est des promesses et des bénédictions. Or, si nous sommes enfants de Dieu, dans Romains 8, verset 7, il est écrit, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Le diable n'a plus d'accès légal à notre vie et nous pouvons donc prier avec autorité et nous délier de toute son influence qu'il a jusqu'alors eue dans notre vie et chasser aussi tout mauvais esprit qui pourrait avoir accès dans notre vie. Nous pouvons placer la croix de Jésus entre nous et nos ancêtres pour briser, couper ce lien malsain, cette partie malsaine de notre héritage, et recevoir l'héritage qui se trouve en Dieu grâce à Jésus. Rappelons-nous aussi que la puissance qui a relevé Jésus de la mort, c'est la puissance du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit était déjà présent lorsque Jésus était un homme sur terre, quand il a été baptisé, il a reçu le Saint-Esprit sur lui. Et tout au long de son ministère aussi, la présence du Saint-Esprit était auprès de lui. Luc 4, verset 18-19 nous dit « L'Esprit, ça c'est Jésus qui parle, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par onction, pour annoncer la bonne nouvelle. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux prisonniers la délivrance et pour renvoyer libres les opprimés. C'est le même esprit encore qui était présent lorsque Jésus a dit à ses disciples, « Allez, allez parler de moi, annoncer la bonne nouvelle et prier et guérissez et délivrez. » Et alors que les disciples sont revenus vers Jésus, ils ont dit, « Mais c'est dingue ce qui nous arrive. En ton nom, quand on prie, les démons partent. On a autorité. » Ils étaient comme ça, toutes surexcités. Et c'est grâce à vraiment cette présence du Saint-Esprit aussi. Après sa mort, Jésus a aussi soufflé sur ses disciples pour envoyer le Saint-Esprit. Et ça, on le voit dans Jean 20, 22. Il les envoya pour prêcher, baptiser et prier pour les gens. Aller dans tout le monde, annoncer l'Évangile. Et comme l'a mentionné Michel, à un moment donné, il dit, ce sont ici les signes qui accompagnent ceux qui ont cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Il délègue vraiment son autorité pour qu'on puisse prier et chasser tout esprit, toute puissance de l'ennemi qui pourrait nous atteindre ou qui pourrait atteindre ceux qui nous connaissent. Quand le Saint-Esprit est présent, les choses se passent. Dieu se manifeste avec puissance. Que ce soit pour nous convaincre de revenir à lui, ou que ce soit pour nous guérir, ou encore pour nous libérer de toute oppression démoniaque. Et je trouve ça incroyable, j'ai reçu cette pensée, comme chacun vous avez pu dire, que ce soit Jonathan ou Michel, le Saint-Esprit était présent. Le Saint-Esprit est présent et il sera présent. Il était, il est et il sera. C'est vraiment cette promesse que ce qu'il a fait avant, il le fait aujourd'hui et il le fera encore. Dieu a délivré par Jésus, par les disciples, et il nous transmet à chacun d'entre nous cette autorité de prier et de chasser les démons. Dans 2 Corinthiens 3, verset 17, il est écrit que le Seigneur, l'Esprit, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Amen. Et je crois qu'en ce jour de Pâques, tout particulièrement, Dieu veut nous amener une liberté nouvelle dans ma propre vie, mais aussi dans votre vie. Si le Fils t'a affranchi, si Jésus est mort, c'est pour vraiment que tu sois réellement libre. Et ce matin, Dieu veut manifester sa victoire de manière visible dans ta vie. On a eu un message il n'y a pas longtemps sur les défis qui sont placés devant nous, où on avait, grâce à Dieu, la force, la puissance de pouvoir les franchir. Et là, c'est bien plus que ça. Dieu désire finalement te délivrer de ce qui te rend captif, de ce qui même t'empêche de lever la jambe pour franchir la haie, de ce qui t'oppresse, de ce qui te maintient captif. Et nous voulons ce matin accueillir la présence du Saint-Esprit. Je sais qu'il est déjà là, mais d'une manière toute particulière. Parce que tout a été rendu possible par le sacrifice de Jésus. Dieu aujourd'hui aimerait toucher ta vie et te délivrer et te toucher particulièrement dans ce qui te maintient captif. Amen. Et j'aimerais simplement vous inviter maintenant à vous lever à votre place, juste pour simplement dire à Jésus, je me positionne debout avec Christ pour saisir la liberté qui est acquise pour moi, aujourd'hui encore, et pour toi, aujourd'hui encore, grâce à ce que Jésus s'est offert pour toi. Jésus a pris la malédiction et il te donne sa bénédiction. Il est temps de faire un échange, ça a été parlé par Michel aussi, de faire un échange. Lâche et reçois. Qu'on puisse vraiment fermer nos yeux et ouvrir nos cœurs ce matin. Merci Saint-Esprit d'être là et de révéler à nos cœurs ce qui nous rend captifs. Seigneur, on prend conscience que ce serait tellement dommage ce matin de repartir chargé et lié de quelque chose qui nous rend captifs. Et je crois que c'est le bon jour aujourd'hui, le jour de Pâques, alors que tu as eu la victoire sur la puissance de la mort. cet ennemi ultime. On vient en toi, on vient dans ta présence, Saint-Esprit, pour recevoir, pour vivre pleinement libre. Je t'invite simplement à ton cœur de demander à Jésus ou au Saint-Esprit, peu importe, qu'est-ce qui me rend peut-être encore captif aujourd'hui ? Merci Saint-Esprit parce que tu viens révéler. Tu viens révéler ce qui se passe dans chacune de nos vies. Tu nous connais, tu es notre ami, comme l'a dit Jonathan. Et tu sais ce qui nous défie, tu sais ce qui est challengeant, tu sais ce qui nous oppresse, qui nous lie. Et on vient en toi, comme nous sommes, simplement comme nous sommes. Et s'il y a un péché qui donne accès légalement à l'ennemi, nous te demandons pardon. Je t'invite à demander simplement pardon pour ce que Dieu est en train de te montrer. Et je prends autorité dans le nom de Jésus à tout esprit méchant qui t'influence maintenant parce qu'il a accès par ce péché-là dans ta vie. Tout ce qui peut te tourmenter, au nom de Jésus, c'est terminé. Peut-être qu'il y a des pratiques occultes que tes parents, tes arrière-grands-parents, peut-être que tu as vu toi-même des guérisseurs, t'allais voir des choses pour des énergies, l'horoscope, des prières aux morts, des choses qui finalement ne plaisent pas à Dieu, et tu réalises qu'en fait, il y a un lien. Il y a un lien qui demeure parce que tu as peut-être déjà demandé pardon. Et si ce n'est pas encore fait, demande-lui aujourd'hui pardon. Et peut-être que tu te dis, mais il y a quand même un lien qui me tient. Redemande pardon ce matin. Ou pardonne à ceux qui ont pratiqué ces choses dans ta famille. Et renonce à ces pratiques. Et je brise leur influence sur ta vie. Que tu sois délié au nom de Jésus. De tout ce qui est venu sur ta vie à cause de cette porte qui s'est ouverte. Que tout esprit qui a eu des droits sur toi puisse s'en aller au nom de Jésus. Et que le Saint-Esprit prenne la place que l'ennemi avait des droits de prendre. Qu'il y ait comme un nettoyage maintenant au nom de Jésus. S'il y a encore des héritages malsains, où tu sais qu'il y a des choses qui sont là depuis des générations en générations dans ta vie, mais tu ne sais pas quoi en faire. Tu luttes par rapport à des maladies, tu luttes par rapport à des malheurs. Simplement place la croix de Jésus et demande pardon. Accorde pardon à tes parents, à tes grands-parents ou au-delà. Simplement. Et demande pardon juste à Jésus pour ton implication inconsciente d'avoir finalement encore été le support de cet héritage malsain dans ta propre vie. Même si tu ne l'as pas voulu, c'était comme quelque chose d'imposé. Que tu puisses demander pardon à Jésus pour ça et mettre la croix de Jésus entre les générations passées et toute influence maintenant négative, malsaine qui ont accès à ta vie soit brisée dans le nom de Jésus. Et j'avais cette pensée que parfois, c'est même nos propres pensées qui nous lient dans des accusations fausses, des mensonges qu'on croit en nous-mêmes, sur nous-mêmes. Et finalement, on est figé. Et l'ennemi, en plus, il en profite pour sauter dans l'occasion, pour venir nous oppresser et nous faire du mal. Je brise au nom de Jésus toute parole accusatrice que tu as pu recevoir dans ton enfance, que tu as pu te dire à toi-même, toutes ces paroles destructrices, leur effet sur ta vie maintenant dans le nom de Jésus. Et que toute influence spirituelle qui a pu avoir des droits par rapport à ça s'en va maintenant dans le nom de Jésus. Merci pour ta vie, merci pour ta liberté, Jésus. Merci pour ce que tu es en train de faire. Je t'invite à rester à l'écoute du Saint-Esprit et juste faire ce parcours avec Dieu de prière dans ton cœur. Et accueillir le Saint-Esprit qui prend la place de tout ce que l'ennemi aurait pu faire. Alléluia.